Depuis le 19e siècle, et en particulier depuis qu'est apparue la science que l'on appelle thermodynamique, c'est-à-dire cette science qui va étudier les processus de dissipation de l'énergie, en particulier à travers la machine à vapeur. Science qui va contribuer en physique à faire apparaître le caractère processuel, c'est-à-dire en constante transformation des phénomènes naturels, en se combinant de la physique thermodynamique avec l'astrophysique, on en viendra à faire une théorie générale de l'univers, comme d'un processus qui est, comme on dit, en expansion. Ceci apparaissant par ailleurs au moment où, au 19e siècle, Darwin, comme je le disais tout à l'heure, rend évident le processus évolutif qui caractérise la vie. Il montre que la vie, c'est essentiellement la transformation constante de la vie. Ceci apparaissant également au moment où Humboldt, un philosophe allemand, commence à développer une théorie des langues, une théorie que l'on appelle comparatiste, où il montre qu'en fait les langues elles-mêmes évoluent et qu'il n'y a pas une archigrammaire, une grammaire primordiale qui serait l'origine de toute langue comme verbe divin, mais qu'il y a des processus constants de transformation et d'évolution des langues. C'est ce qui conduira à la théorie de la linguistique de Ferdinand de Saussure et à la question de ce que Saussure appellera le caractère diachronique des langues, c'est-à-dire le fait que les langues ne cessent pas de se transformer. Dans le même temps, il y a également les recherches archéologiques qui, dès le 19e siècle, montrent d'une part que l'homme, eh bien, a eu non seulement une histoire, une proto-histoire, mais une préhistoire, et que cette préhistoire remonte très loin dans le temps. On la datera au 20e siècle de 4 millions d'années. Et que, à travers la préhistoire et l'archéologie, on peut reconstituer l'évolution de l'anthropologie. On peut faire une anthropogenèse, une paléo-anthropologie, et montrer que l'homme n'a pas toujours été ce qu'il était, qu'il s'est transformé fondamentalement au cours des siècles, des millénaires, des centaines de milliers d'années, et même des millions d'années. À partir de là, une approche ontologique qui dirait ce que c'est que l'homme, ce que c'est que ceci, ou ce que c'est que cela, ce que c'est que le langage, ce que c'est que là, devient très problématique. Et l'on en vient à penser que peut-être la question n'est pas de trouver l'essence d'une chose, mais les conditions dans lesquelles cette chose peut s'individuer, c'est-à-dire devenir ce qu'elle est. Le devenir vient au premier plan des questions. Et ceci se produit évidemment, toutes ces transformations épistémologiques que j'évoquais à l'instant, à travers Humboldt, à travers Darwin, à travers les archéologues, les préhistoriens, etc. Où tout à coup, donc, la question de l'essence semble faire place à la question du devenir, de la transformation, du processus. Eh bien, tout ça, ça se passe au moment même où, avec la machine à vapeur, dont la théorie thermodynamique est issue, la société elle-même se transforme à toute vitesse, s'industrialise, et semble elle-même être emportée par un processus de transformation constante qui fait que tout le monde, n'importe qui, et pas simplement les savants, prend conscience du caractère absolument historique et transformatif de l'histoire humaine, de l'aventure humaine, de l'existence humaine en règle générale. Ici, il faut évidemment prendre conscience du fait, non pas nous, du fait que le monde est historique, parce que nous avons tous une conscience historique, ne serait-ce que parce que nous sommes passés à l'école où on nous a appris l'histoire de France et l'histoire universelle. Mais parce que il faut que nous prenions conscience du fait qu'au XVIIIe siècle, au contraire, c'était la rareté, cette conscience. La plupart des gens n'avaient aucune conscience du fait que le monde se transformait. Pour la plupart des gens, l'endroit où ils avaient vécu, où ils étaient nés et où ils étaient morts, presque jusqu'au XVIIIe siècle, sauf pour ceux qui vivaient dans les villes ou dans les bourgs, relativement d'ailleurs, mais en tout cas pour ceux qui vivaient dans les campagnes, c'était l'immense majorité de la population, le monde ne se transformait pas. En réalité, il se transformait, mais il n'en avait pas conscience, parce que cette transformation était très lente. Ce n'est que lorsque l'industrie est apparue, c'est-à-dire lorsque la technique a intégré, la technique comme processus de transformation de la matière, a intégré les formalismes scientifiques, car l'industrialisation, ça suppose un rapprochement de la science et de la technique, une intégration des formalismes scientifiques dans la technique qui du même coup devient ce qu'on appelle maintenant la technologie. Ça n'est qu'à partir de ce moment-là que les populations du monde entier, d'abord de l'Europe occidentale, puis de l'Europe et des États-Unis, puis de tous les pays soumis à la colonisation et finalement aujourd'hui de la planète entière, découvrent que le monde est un processus de transformation constant. J'apporte ces précisions à caractère historique, mais pas seulement historique, épistémologique évidemment aussi. J'apporte ces précisions pour essayer d'expliquer pourquoi, en ce qui me concerne, je tends à ne plus parler d'essence ou d'ontologie, mais de consistance. On disait auparavant, l'essence précède l'existence. Ça, c'est ce que dit Platon d'une certaine manière. Il dit, il faut qu'il y ait une idée pour que une chose puisse être. La pensée de l'idée précède l'expérience de la chose d'une certaine manière. Et en réalité, ça veut dire que l'expérience de la chose présuppose la possibilité de penser la chose, et un accès à l'idée qui permet de penser la chose. Et ça, c'est l'origine de ce qu'on appelle l'idéalisme en philosophie. L'idéalisme ne voulant pas dire simplement, comme on le dit par exemple, de l'idéalisme de la jeunesse, qui a tendance à négliger la réalité et à prendre, comme on dit parfois, ses désirs pour des réalités. Ou bien l'idéalisme au sens où la jeunesse exaltée par des idées et généreuse permet de transformer le monde précisément. Mais ça n'est pas l'idéalisme dans ce sens-là simplement. C'est un idéalisme qui est une position fondamentale philosophique liée à un certain type de la philosophie en tant que conversion. On ne s'en rend pas compte. Ah merde. Au XXe siècle, je le disais l'autre fois dans le cours précédent, Jean-Paul Sartre renversera le point de vue en disant, c'est ce qu'on appellera l'existentialisme, l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que c'est dans l'existence que l'essence se constitue. Je crois moi-même qu'il faut, je le crois, c'est pas simplement moi, tout le courant qui passe par Nietzsche notamment, mais aussi par Marx, et par bien d'autres, également par Wittgenstein, dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il faut abandonner ce terme d'essence et qu'il faut donc aller au-delà de la question de l'être de la chose et que plutôt que d'essence, il faut parler de consistance. La consistance, je l'ai dit l'autre fois, c'est quelque chose qui n'existe pas, hein, mais qui insiste et consiste à travers tous les cas existants, qui constituent une unité, qui tendent à constituer une unité. Mais cette consistance, j'essaye de la penser, pour ma part, à partir du désir. Mon concept de consistance est plus proche de l'idée kantienne que de l'idée platonicienne. L'idée kantienne, c'est, mais il n'y a pas, chez Kant, il n'y a pas une idée de chaque chose, de toute chose. Les idées, ce sont les idées de la raison en tant qu'elle est capable de s'infinitiser, d'accéder à une suprasensibilité qui la dépasse et qui dépasse les existences. Les objets de la raison, c'est par exemple la justice. Et nous savons tous que la justice n'existe pas, mais nous tendons tous à désirer la justice. Évidemment, ici, on va me dire, mais alors quel est le rapport avec ce dit Husserl? À savoir que pour voir un rouge quelconque, il faut viser le rouge qui n'existe pas. Et donc vous diriez donc vous, Stigler, qu'il consiste. Mais est-ce que nous désirons, nous tous, quand nous regardons du rouge, ce rouge qui n'existe pas et qui consiste, qui serait notre attente en quelque sorte, notre projection? S'il est vrai que vous dites que la consistance, c'est l'objet d'un désir. Eh bien, je pense que pour un peintre comme Van Gogh, par exemple, le jaune est effectivement l'objet de son désir. Et que ce qui fait que la consistance de la couleur apparaît, nous apparaît à nous qui ne sommes pas peintres, c'est que nous pouvons regarder de la peinture. Je pense que c'est vrai aussi du son en musique. Et je pense que c'est vrai de toute chose avec la littérature. De toute chose telle qu'elle passe les choses toutes par la langue. Autrement dit, les consistances, ce sont bien des projections qui ressemblent aux idées, aux aïdées, ou à ce que Husserl appelle aussi parfois l'intentionnalité des choses, en tant qu'objet du désir, mais ce que je pose, c'est qu'elles ne sont activées comme telles que par ceux qui les font consister précisément. Tous ceux qui sont des êtres noétiques, et pas seulement les artistes, les philosophes ou les écrivains, mais aussi par exemple le jardinier qui jardine, il fait consister quelque chose. Tous les hommes, en tant qu'ils agissent et transforment le monde dans lequel ils vivent, et se transforment par la même occasion, en projetant leurs désirs dans le monde, et en transformant le monde par la même. J'insiste sur ce point pour une raison très précise, c'est parce que j'essaye ici, dans cette note complémentaire au troisième cours, ou intermédiaire entre le troisième et le quatrième cours, j'essaye de préciser pourquoi, pour ma part, je continue à penser que ce que Platon appelait l'essence, ou ce que Husserl appelle l'eidos, ce que Kant appelle soi, les catégories qui sont en fait des archis ou des proto-catégories dans la table des catégories, soit les idées au sens des idées de la raison, cela constitue autre chose que les simples métacatégorisations, autre chose que les simples activités théoriques de la science, par exemple de la science botanique, de la classification réflexive que propose par exemple Linné dans sa théorie du végétal, et qui est rendue possible par l'écriture en tant qu'elle permet de faire des classements, justement, des métacatégorisations, comme c'est le cas pour la grammaire. Je veux dire par là, donc, pour moi, il y a bien en effet des processus de catégorisation, des processus de métacatégorisation, et des processus de projection de ce qu'on pourrait appeler, dans le langage de Platon, des idées, dans le langage d'Aristote ou dans le langage de Husserl, des aïdés, pluriel de l'aïdos, ou dans mon langage, des consistances. Sachant donc qu'à cela, il faut ajouter chez Kant les proto- et les archicatégories. Les proto-catégories et les archicatégories de la table des catégories et des concepts purs de l'entendement. Mais ça, je propose de le laisser de côté. C'est trop compliqué. Il y aurait, dans toute activité linguistique, dite Husserl par exemple, un processus spontané d'idéation, c'est-à-dire de catégorisation, qui fait que sous les divers rouges, je rassemble les divers rouges comme formant l'unité du rouge, n'importe qui y accéderait, et par des opérations spéculatives et philosophiques qui supposent une conversion du regard, un changement d'attitude, par exemple avec la phénoménologie, en mettant en œuvre cette démarche qui consiste à neutraliser la croyance dans l'existence du monde, on pourrait accéder, dit Husserl, aux aïdés, au noyau eidétique, il appelle ça comme ça parfois, ou au noyau noématique. Noème vient de Noèse, c'est-à-dire c'est l'objet de l'esprit pur. Je pose, pour ma part, que pour que l'on puisse accéder à cette conversion, pour que l'on puisse opérer cette conversion, il faut être passé par la métacatégorisation et que la métacatégorisation suppose la pratique de l'écriture. Voilà l'essentiel de la thèse que je soutiens ici. De ce point de vue-là, on peut dire que l'apparition de l'écriture alphabétique chez les Grecs constitue en quelque sorte une métaconversion. C'est-à-dire que pour qu'elle rend possible les conversions philosophiques, mais pour que les conversions philosophiques puissent se produire, c'est-à-dire les crises philosophiques et les processus critiques en quoi consiste la philosophie, il faut que ce soit produit une méta-conversion, une méta-crise qui est rendue possible par l'écriture. Par l'écriture telle qu'elle modifie dans la vie de tout un chacun qui sait lire et écrire son rapport à sa propre langue en particulier et le plonge spontanément dans une position de méta-catégorisation. C'est ça, l'enjeu fondamental de ce cours dans le débat qu'il ouvre avec Platon sur ce sujet, qu'il tente d'ouvrir. J'y insiste, pourquoi? J'y insiste parce que c'est contradictoire avec la position que défend Platon. Et c'est à partir de cette thèse que je soutiens que je vais lire Platon, donc ça veut dire que ma lecture de Platon va être une lecture critique de Platon, une lecture non platonicienne de Platon, où je vais essayer de montrer que dans Platon, il y a des problèmes qui sont posés et qui ne sont pas résolus parce que ils ne traitent pas la question que je viens d'indiquer là, à savoir que l'écriture, en tant qu'elle permet la métacatégorisation, est la condition de la pensée par soi-même, au sens où lui l'a définit, une pensée par soi-même dialectique. Et que la dialectique, ça n'est pas seulement le dialogue, oui, ça passe par le dialogue, mais c'est le dialogue entre des gens lettrés. Socrate est lettré, Phèdre est lettré, ça veut dire qu'ils ont appris à lire et à écrire et à catégoriser d'une certaine manière qui les conduit spontanément à la métacatégorisation. Autrement dit, l'écriture ici est la condition d'accès, non pas seulement à la métacatégorisation, mais à la dialectique, et donc en tant que condition d'accès à la dialectique, c'est la condition d'accès aux idées elles-mêmes. À travers ce que, nous allons bientôt le voir, Platon appelle l'anamnésis. Or, au contraire, Platon va dire dans le Phèdre que la pratique de l'écriture, c'est ce qui va empêcher l'accès aux idées. Tout Tout notre problème se situe là. L'esclave de Ménon est lettré, il sait lire et écrire. Et ceci constitue la condition de l'activité noétique, de la pensée par soi-même, de la, ce que Platon appelle la dianoïa. Platon lui-même ne voit pas cela, et c'est ce qui fait que il ne développe pas le côté curatif du pharmacon, c'est-à-dire de ce que, lorsqu'il dit dans Phèdre, lorsque Socrate, pardon, dit dans Phèdre, que l'écriture est un pharmacon, c'est-à-dire un remède et un poison, il admet que l'écriture est un remède, mais il ne développe pas ce point-là. Il développe essentiellement le fait que c'est aussi un poison et finit par oublier de dire en quoi c'est un remède. Et finalement, il finit par oublier que c'est un remède. Et ça pose un énorme problème, puisqu'il va pratiquer lui-même l'écriture comme un remède, mais il ne va pas théoriser sa pratique de l'écriture comme remède, et donc on a l'impression que sa théorie n'est pas cohérente. C'est cela que nous allons étudier dans les semaines qui vont venir maintenant. Nous allons essayer de comprendre d'abord en quoi la pensée de Platon est immensément puissante et fondatrice de toute philosophie, et pourquoi on ne peut évidemment pas s'en débarrasser, pourquoi on doit fondamentalement étudier Platon pour étudier toute autre philosophie. Mais on va également voir pourquoi cette philosophie rencontre des problèmes, des difficultés qui tiennent à ce refoulement de la question du pharmacon et plus généralement de la technique qui empêche, je crois, Platon de pleinement déployer les conséquences de ses premières intuitions. Et enfin, nous verrons pourquoi cela concerne évidemment tout ceci de manière absolument centrale, majeure, notre époque. Pourquoi notre époque est typiquement l'époque où nous sommes dans l'obligation d'affronter désormais ces questions. Alors j'ai reçu un message de Patrick Bourg, un des professeurs qui accompagne les étudiants ici, professeur de l'IUT de Moulins. D'une part, un message de Patrick Bourg me proposant une schématisation de mon discours sur la catégorisation et la matérialisation des semaines précédentes, des deux cours précédents. Et d'autre part, j'ai reçu quelques jours après cela un message d'un auditeur, enfin de quelqu'un qui suit le cours pharmacon.fr, sur pharmacon.fr, un adhérent d'Ars Industrialis qui est lui-même informaticien, qui travaille dans la théorie des ontologies en intelligence artificielle, et qui m'a proposé lui-même une schématisation de ce que je disais dans ses cours. Alors voici ces deux schématisations, d'une part celle de Patrick Bourg, et d'autre part celle de ce monsieur. Je dis ce monsieur parce qu'il a un nom de code, mais je n'ai pas repéré son nom à proprement parler. Et je pense que il y a ici ce que ces deux schématisations font apparaître. C'est que mon cours n'a pas été très clair sur la distinction, la clarté de la distinction entre métacatégorisation et idéalisation, par exemple. Et d'autre part, ce qui n'y apparaît pas, en fait, c'est que... Enfin, moi, je ne décris pas un état de la... la bonne manière de voir ce problème. J'essaie de montrer comment des philosophes ont successivement tenté de le penser en héritant les uns des autres, bien entendu, en s'ignorant pas les uns des autres, mais en faisant évoluer plus ou moins les analyses. Quant à moi, j'essaye d'y introduire quelque chose de nouveau, précisément, avec la question de l'écriture.